Radio Libertaire, émission Chronique Hebdo, comme tous les jeudis matins. Alors ce matin, c'est la première émission en direct de la matinée, donc un peu plus de 10 heures, et c'est effectivement le jeudi 14 février. Voilà, c'est une émission en direct, donc on a mis un petit peu du Django Reinhardt ce matin, quelques airs et quelques musiques de Django Reinhardt pour un petit peu mettre un peu réchauffer, s'il en était besoin, le studio de Radio Libertaire. Alors, vous le savez, si vous êtes de fidèles auditeurs et surtout des infidèles, on va en parler ce matin, des infidèles, ce matin, vous savez que c'est les commentaires de l'actualité d'un point de vue libertaire, anarchiste, hein, ça existe depuis plusieurs dizaines d'années, on peut le dire maintenant, habituellement avec Josie et Jacques, hein, vous le savez, et que depuis quelques semaines, donc ils se sont un peu éloignés du studio. On a essayé de faire une jonction récemment dans notre studio de campagne, comme on avait dit, dans le Vaucluse. Et puis, pour ce qui est des prochaines émissions de Chronique Hebdo, nous aurons... Là aussi, je vous informe que Josie et Jacques resteront un petit peu éloignés des studios de Radio Libertaire. Alors peut-être que, au fil du temps, les prochaines émissions, on réussira à nouveau à avoir une jonction, un direct avec le Vaucluse. Mais en attendant, la possibilité, c'est que Chronique Hebdo. Aujourd'hui, nous avons donc un invité dans les studios de Radio Libertaire, et cet invité, c'est Floréal. Alors Floréal, je vais d'abord ouvrir ton micro, c'est important, puis on va vérifier évidemment si ça fonctionne bien. Mais pour rappeler que l'année dernière, à peu près, à cette époque, on avait fait quelques émissions de Chronique Hebdo. Ensemble, il y avait à l'époque aussi Elisabeth qui avait assuré la partie technique. Et donc, c'est une. On va essayer de renouveler un peu, comme on dit la formule. La formule, ce matin, donc nous sommes deux dans le studio de Radio Libertaire, donc Floréal et puis Gérard. Et donc on va essayer jusqu'à midi de commenter l'actualité, puisque c'est un peu la formule. Et rappeler que Floréal aussi avait il y a quelques années une émission. Vous aviez une émission. Enfin, c'était à l'époque avec Jean. Donc ça s'appelait Arbrousse-Poil.
Voilà, ouais, une émission hebdomadaire également avec l'ami Jean, qui a d'ailleurs donné lieu, on peut le signaler, même si c'est difficile à trouver, à une petite brochure que Jean a écrite en compilant nos réflexions diverses et variées. Ça a duré 4 ans, je crois, l'émission. Ouais. Et donc, il en était sorti cette petite brochure parue aux éditions de l'Esprit Frappeur, qui a très très bien marché, au point d'ailleurs que, comme je le disais à l'instant, il est difficile de se la procurer aujourd'hui. Donc ça traîne des fois, elle traîne ici ou là chez des bouquinistes, des gens qui vendent des bouquins comme ça sur les marchés, etc. Le titre de cette brochure, c'est l'ordre mon cul, et la liberté. La liberté m'habite, du verbe habiter évidemment. Donc aux éditions de l'Esprit Frappeur, petite brochure, petit format, donc qu'on doit à notre ami Jean Verlinde.
Alors vous savez donc ce sera ce matin alors des sujets de l'actualité. Alors il y a quelquefois aussi, vous savez, des sujets qui arrivent comme ça au cours de la discussion, de la réflexion, de l'analyse ou des commentaires. Donc ce matin on évoquera une actualité, enfin celle-là, une actualité, je dirais, tragique, pour commencer. Donc ce qui s'est passé, vous le savez, ou vous le savez pas, vous allez peut-être l'apprendre, par rapport au Pôle emploi de Nantes. Là aussi, une personne, Une personne, parce qu'on va pas dire, vous savez, parce qu'on parle la dénomination identitaire, c'est de coller des étiquettes sur les personnes, les individus. Donc on parle d'un chômeur. En tout cas, c'est une personne qui avait des difficultés parce qu'il n'avait pas de, il n'avait plus de revenus. Et dans sa situation précise, alors pour le dire, la gravité quand même, c'est que cette personne s'est immolée par le feu. Alors ce que il faut le dire, puisque aussi c'est une première, et il faut commencer par là, dans ce pays, dans le tragique de cette situation, et voir aussi que avec un petit peu plus d'informations, on en aura. Les radios et les gazettes, déjà, en ont fait leur chou gras, peut-être aussi pour noyer l'affaire, peut-être pour pas ou masquer d'autres choses. En tout cas, pour le moment, des journaux, vous savez bien, donc la média propagande a ouvert sur ce thème-là hier soir. Et ce matin, apparemment, les radios dites publiques, les radios privées, parlent évidemment de cet événement tragique. Alors là aussi, les conditions, parce qu'il faudrait les rappeler, que cette personne qui s'est immolée par le feu avait, il y a 2-3 jours déjà, informé le Pôle Emploi, hein, puisque c'est Pôle Emploi par rapport à, vous savez, c'est la fameuse jonction fumeuse et fameuse, un véritable désastre entre la NPE et les ACEDIC, hein, qui a été mis en place par le gouvernement précédent, mais c'est la même chose, hein, celui qu'on a maintenant. Et donc, cette personne avait, paraît-il, alors il faudra faire attention, parce que déjà elle, on laissait peut-être un petit peu de la rendre responsable, hein, vous le savez, de dire elle a peut-être pas été au bon moment pointée, ou tout du moins elle aurait travaillé un certain nombre de semaines et pas assez d'heures de travail pour lui permettre d'avoir des allocations, ou tout du moins d'en avoir touché. Il faudra faire la lumière un petit peu précisément, d'en avoir touché, et on lui demandait de rembourser. Alors rembourser, et aussi peut-être ne plus avoir d'allocation. Alors là, c'est une personne apparemment qui a 43 ans, hein, on est dit responsable de famille. On verra ça après par rapport à comment il vivait, cette personne, en tout cas de façon tragique. Il aurait déjà informé le Pôle Emploi il y a 2 ou 3 jours de ses intentions, en faisant venir, en disant qu'il se suiciderait chez lui, et en faisant venir le SAMU, paraît-il, ou l'intervention des pompiers. Et puis après, il a à nouveau rappelé Pôle Emploi en disant qu'il viendrait. Alors donc, dans la manière dont ça s'est fait, s'il est venu en bus, s'il a eu le temps de s'asperger d'essence, de mettre le feu et de pénétrer à l'intérieur du Pôle Emploi, où les gens, évidemment, le traumatisme et le drame et les faits que ça a pu produire. Alors, Floréal, je voulais juste rappeler que c'était cette information-là à mettre peut-être en parallèle. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut se souvenir, le démarrage de toutes les révolutions, comme on a dit, de Jasmin, les révolutions arabes, a démarré en Tunisie par l'immolation, par le feu, d'un vendeur à la sauvette, en tout cas on y disait à la sauvette, mais en tout cas d'une personne qui, en Tunisie, avec Ben Ali, n'avait pas de revenus, hein, essayait justement de survivre en vendant quelques fruits et légumes, et il n'avait pas, paraît-il, d'autorisation, et c'est ce qu'on nous a dit justement à l'époque, pour les vendre, et une fliquesse l'avait réprimandé, l'aurait giflé, lui aurait craché dessus à l'époque. Alors on va voir les similitudes avec une violence physique réelle, avec une violence symbolique, comme ce qui vient de se passer. Et ça avait, Ben Ali avait essayé à l'époque de temporiser, et puis quelques semaines après, eh bien, on sait la suite des événements par rapport à l'embrasement de la société tunisienne. Alors, je ne sais pas pour ce qui est de la France, parce que là aussi, dans la symbolique, il faut rappeler que ça se passe à Nantes, hein, c'est la ville quand même de Monsieur Hérault, hein, donc qui est déjà intervenu pour comprendre que c'était un drame humain, hein, c'est la moindre des choses, dans les gazettes, donc il est intervenu, et la proximité aussi avec un conflit dont on ne parle peu, puisque si la guerre du Mali, là on l'a mis un petit peu de côté, un petit peu en sourdine, mais avec ce qui se passe, vous le savez bien, avec Notre-Dame des Luttes, comme on appelle Notre-Dame des Landes, là aussi le projet d'aéroport, hein, comme on l'appelle, avec justement l'entêtement, plus que ça, et la violence aussi qui a été mise en place par Monsieur Hérault. Alors voilà, ça c'est des nouvelles absolument récentes, mais qui confirment la tragédie, la violence, comme on dit, comme on le rappelle, de la guerre économique, hein, les victimes militaires ou les victimes civiles, comme la guerre militaire qu'il se passe au Mali, mais les victimes de la guerre sociale, de la guerre économique dans ce pays, parce que récemment, on rappelait à propos de la PAC, hein, là encore une fois, de la politique agricole, que c'est appelé politique en plus de ça, que 400, hein, près de 400 agriculteurs, en tout cas, on ne va pas dire paysans maintenant, se suicidaient chaque année. Hein, de désespoir, de désespérance. Là, on en est dans ce... Alors, après, vous le savez, souvent, on a donné pas mal d'informations dans cette émission de tous les suicides au travail, hein, les suicides au travail. Et là, la nouveauté, on peut dire, enfin, si on peut appeler ça une nouveauté, mais par rapport à cette guerre sociale, eh bien, c'est un, comment on dit, une personne qui s'est elle-même, hein, donc qui s'est elle-même sacrifiée, qui a reporté peut-être sa misère, sa souffrance ou sa colère sur elle-même, hein, par ce suicide, et donc c'est quelque chose de véritablement extrêmement important quand on voit aussi, on le répète souvent, le nombre de gens qui sont actuellement dans la rue, puisque les estimations sont de l'ordre de 160 000 à 200 000 personnes, et non seulement des jeunes, des vieux, des familles, hein, tout ça, qui vivent dans des conditions, vous savez lesquelles, puisqu'on parle pas de vivre, mais de survivre, hein, ou quelquefois des espérances de survie de 1 an ou 2 ans, qui ont été calculées par de grands statisticiens humanitaires, en ce qui concerne la ville de Paris. Alors voilà cette situation absolument tragique que je voulais en préambule, si on peut dire, pour commencer cette émission pour les auditeurs de Radio Libertaire, puisque vous le savez, on suit quand même comme on le dit souvent, cette guerre sociale, puisqu'on avait aussi, je le rappelle, invité dans ce studio Patrick Declercq pour son livre « Les naufragés » qui avait été publié à Terre des Hommes, et ça fait à peu près plus de 10 ans, et depuis 10 ans, évidemment, la situation s'est complètement dégradée par rapport à les gens qui sont dans ces situations extrêmes d'être dans la rue, et puis aussi, eh bien, le nombre de suicides au travail, le nombre de suicides de gens qui sont sans boulot, mais surtout sans revenus, et cet événement tragique, nouveau, mais qui est un signal peut-être fort, et comme je le rappelais, un signal peut-être très fort, comme celui qui avait embrasé les pays du Maghreb. Voilà, Floréal, si tu voulais... peut-être sur ce...
Oui, je ne sais pas si on peut faire le parallèle avec les pays du Maghreb, parce que tu rappelais l'épisode, cette immolation... En Tunisie, qui a déclenché une révolution, ou en tout cas ce qu'on prétend être une révolution, qui a quand même très vite mal tourné, la dite révolution. Et donc, en général, les révolutions sont faites par le peuple et contre des régimes autoritaires, souvent plutôt à droite. Or là, on est quand même...
On n'est pas dans ce...
Tu voulais dire qu'il y a... au gouvernement.
Oui, la différence.
Qui a été placé par le peuple, le grand peuple de gauche. Donc on voit mal comment ce peuple de gauche pourrait se retourner contre lui-même, puisque il a placé ses représentants à la tête de l'État et du gouvernement. Enfin, plaisanterie mise à part. Non, ce que je voulais dire, c'est effectivement revenir un tout petit peu sur ce que tu as dit au début de ton intervention, à savoir voir cette manie d'accoler des étiquettes qui est de plus en plus présente et forte, et surtout de désigner les individus en fonction de ce qu'ils font dans la vie, de leur travail, ou de ce qu'ils ne font pas, puisque de plus en plus de gens n'ont pas de travail. Et la meilleure preuve, c'est que sur le journal que j'ai devant les yeux là de ce matin, et qui évoque le drame là qui s'est passé à Pôle emploi à Nantes, on parle effectivement d'un chômeur de 43 ans qui a mis fin à ses jours. Or c'est un être humain qui a mis fin à ses jours. Il se trouve qu'il n'avait pas de travail et qu'il était chômeur. S'il s'était suicidé pour des raisons sentimentales, je ne pense pas qu'on écrirait qu'un amoureux de 43 ans a mis fin à ses jours. Mais là, malheureusement, bon, il s'agit encore une fois uniquement de définir ce qu'est un individu à travers son travail ou son non-travail. D'ailleurs, le ministre du Travail, Michel Sapin, alors je ne sais pas s'il a déclaré ça depuis son ministère ou s'il s'est rendu sur place, Michel Sapin qui est ministre du Travail, on se demande d'ailleurs pourquoi il s'exprime, puisque cet homme n'en avait pas de travail, qui a précisé que c'était un drame, évidemment, mais que tout avait été fait pour cet homme. Donc, s'il ne se pose pas la question de savoir pourquoi, quand tout est fait, ça se termine par un suicide, ça devient quand même assez aberrant et dans le cas présent, dramatique.
Oui, et puis, comme tu évoquais le fait de mettre une étiquette, on le rappelle aussi qu'une des identités premières dans la société du travail, justement, dans laquelle on est, peut-être, c'est de définir, hein, puisque la question première, maintenant, c'est, on disait, qu'est-ce que tu fais dans la vie, hein, ça sera qu'est-ce que tu ne fais pas, qu'est-ce que tu ne fais plus, peut-être ces questions-là, ou qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Donc, on voit très bien, justement, la définition même, comme on le dit quelquefois aux États-Unis, c'est combien on rapporte, hein, combien on ramène à la fin du mois. Donc là aussi, en paquet de dollars, peu importe peut-être l'activité, mais il reste encore cette notion de définir et de classer, de classifier. Et là aussi, par rapport à ça, il n'y a pas de forme, on pourrait dire, d'égalité entre ce que l'on peut dire, on le verra ce matin, selon le degré ou le classement que la société peut faire par rapport aux individus. Et quand, évidemment, c'est un patron, hein, qui arrive, qui a quelques soucis ou de santé, ou quelquefois, hein, ou un ministre, hein, qui disparaît, ou un accident du travail pour un ministre, eh bien, là aussi, on n'explique pas les choses de la même manière. Ça prend tout de suite une importance considérable, alors que là, la stigmatisation perdure, même dans le titre, hein, justement, de dire quelqu'un qui est chômeur, puisque, souvenons-nous, et ça reste encore peut-être dans beaucoup d'inconscients, ou même consciemment pour les gens, c'est encore une stigmatisation qui, il y a peu de temps, était très forte en disant, s'il est dans cette situation, si cette personne est dans cette situation, c'est sûrement parce qu'elle est responsable de cette situation-là. Et là encore, ben, on voit que ça bouge un petit peu, puisque, compte tenu du désastre à ce niveau des gens sans revenus, quand on fait la comptabilité des gens qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas surtout pas de revenus, on arrive à exprimer le fait de presque 20% hein, de la population, on serait entre les chiffres qui iraient de 15 à 20% de cette population, en tout cas pour rester dans l'hexagone. Alors ça, c'est une chose à dire, et là aussi, comme voir selon... Encore une fois, c'est comme si cette histoire des cours, puissants ou misérables, mais là aussi, le souci des gens qui sont dans la rue, le nombre de gens qui sont dans la rue, bah une fois, comme on a les a rebaptisés, puisqu'on parlera de la religion ce matin, puisqu'on est dans la religion du travail, eh bien, quand on a rebaptisé ces gens-là exclus, Ça veut dire que déjà, on les a mis hors d'une société alors qu'ils sont complètement dedans. Ils sont plus que dedans que d'autres, puisqu'on pourrait dire même ils occupent la rue. Alors ça, c'est aussi une forme tragique du langage, hein, comment exprimer justement par dire les choses par le langage, et le fait que quand on dit là aussi, quand on dit exclu, eh bien c'est une fois pour toutes, le couperet serait tombé, donc c'est un exclu, c'est un SDF, hein, la même chose aussi, c'est une appellation évidemment, comme on a dit, anarchique, hein, sans domicile fixe, qui ne veut rien dire, puisque c'est souvent sans abri, et ça aussi, tout ça s'est passé un peu dans la tête des gens, et en leur faisant peur, puisqu'on parlera peut-être de la religion ce matin, n'ayez pas peur, que on le sait, enfin l'enquête d'opinion, il faut faire attention, que l'ensemble de la population française a la peur, a la trouille de se tomber, de se retrouver dans des situations tragiques, c'est-à-dire sans boulot et après avec la suite, hein, puisque on l'expliquait ce matin là dernièrement, tu sais qu'il y a les histoires de crédit, là aussi c'est la mode, puisque les gens sont obligés de s'endetter, d'avoir des crédits parce qu'ils n'ont pas de revenus, et là pour une société de crédit, eh bien il y a voulait faire sa publicité, donc elle a été tout de suite stoppée, puisque c'est une femme jeune, 23 ans, qui a tué ses enfants. Hein, là aussi, tragique, drame tragique, ça arrivait il y a quelques jours, sinon quelques semaines, par rapport à une situation. Et là aussi, je pense que son compagnon, tout du moins, je ne sais pas si c'est le mariage pour tous, mais l'a suivi, hein, dans cette histoire-là. Là aussi, ce sont des choses dont on parle à la marge, puisque ou pas du tout, puisque la société de crédit avait donné des consignes aux journaux, hein, et les journaux sont là avec la publicité, certainement, pour ne pas publier cette information. Alors voilà, un peu, c'est pour ça que je disais, les comparaisons, donc, avec d'un pays avec un autre, les pays, comme, évidemment, vous le savez, que ce qui peut se passer dans l'Hexagone, en tout cas pour une frange importante, large, de plus en plus large de la population, c'est une véritable tragédie. Voilà.
Ce qu'on peut dire, c'est que, peut-être pour conclure sur le sujet, c'est que l'une des conséquences, pour reprendre également ce que tu disais tout à l'heure, l'une des conséquences des bienfaits inconnus du libéralisme, c'est que ça aura permis d'étendre à une autre catégorie de population la fameuse question « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» qui était une question que traditionnellement les parents ou grands-parents posaient à des jeunes enfants. Mais maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on peut la poser à des gens de 40 et 50 ans.
Voilà. Donc, alors, Floréal, ce matin, on va passer une chanson de Jean-Michel Piton, et qui va présenter un petit peu...
Introduire, je
dirais. Oui, introduire, alors disons-le carrément, franchement, le prochain sujet de Chronique Hebdo. Voilà, je vous rappelle, donc c'est l'émission Chronique Hebdo en direct ce matin, donc comme d'habitude, hein, en direct de 10h à midi, et le numéro du studio, le 01 43 71 89 40.
Qu'une fois l'an, le bonnet de lin, aux joues fessées tant et tant que leur peau se tanne. Il ment parfois, ça dépend, quand ça le dépanne, pour soigner sa rage dans ce mal qui le damne. Est-ce Satan qui sous-tend ce qui se tend sous la soutane? Mais la fleur de l'enfant fane. Mais la fleur de l'enfant fane. Il fuit quand il est à cran, lorsque dans son crâne l'angoisse fait du boucan, ses idées boucanent. La douleur cuisante au flanc, le voilà qui flâne, ou s'enroule dans son caban, au fond d'une cabane. Est-ce Satan qui sous-tend ce qui se tend sous la soutane? Mais la fleur de l'enfant fane. Mais la fleur de l'enfant fane. Parfois, il entend le vent balancer ses vannes sur ses rêves de cormoran, encore Bob Moran. Par des gestes insultants, ces jolies sultanes, c'est de honte qu'il rit quand l'adulte ricane. Est-ce Satan qui sous-tend ce qui se tend sous la soutane? Mais la fleur de l'enfant fane. Mais la fleur de l'enfant fane. Le petit singe savant, digne des savanes, rêvait d'être président, pourquoi pas Zidane? La vie a fait méchamment mourir ses chamans. Il en décide l'enterrement d'un noir Waterman. Est-ce Satan qui sous-tend ce qui se tend sous la soutane? Mais la fleur de l'enfant. Mais la fleur de l'enfant fane.
Radio Libertaire, émission Chronique Hebdo qui reprend. Alors, un petit peu de Jean Gorenhardt. Et juste avant...
Juste avant, c'était l'ami Jean-Michel Piton, avec une chanson intitulée « La fleur de l'enfant hein, », qui était, comme on le disait, donc avant de l'écouter, une excellente introduction au sujet que nous allons traiter maintenant, à savoir l'émoi, le choc, hein, nous le sommes
oui,
tous les
là,
l'émotion.
Les auditeurs aussi appelaient.
Avec cette annonce surprise de la démission du grand taulier du Vatican, comme disait Prévert.
Oui.
Et donc j'avais choisi cette chanson de Jean-Michel Piton pour précisément parler de l'un des aspects qui a secoué, comme disent les médias, l'Église catholique ces dernières années, tout bonnement parce que j'ai lu avec effarement, je dois dire, à la une du Monde, du grand quotidien de référence, oui, devrais-je dire, dans l'éditorial, suite à cette annonce donc de démission du pape. Tout un tas de commentaires, bon, dont on peut penser ce qu'on veut, bien sûr. Mais alors, il est précisé dans cet éditorial du Monde que Benoît XVI, donc, va laisser une image contrastée. Et l'image contrastée en question présenterait plutôt d'un côté une espèce de laisser aller par rapport aux tendances intégristes de son Église, l'Église catholique, c'est-à-dire le fait qu'il ait opéré un rapprochement avec les tendances les plus fanatiques de l'Église catholique. Et donc cette espèce de, enfin non pas de laisser aller, mais plutôt d'actes de sympathie marquée avec une frange dure de l'Église catholique. Et de l'autre côté, donc d'après cet éditorial du Monde, hein, toujours bien sûr, sa fermeté, je lis, sa fermeté dans la condamnation des actes de pédophilie dans l'Église. Alors, hein, quand on lit ça, on est quand même un peu effaré. Il faut dire, alors, on a l'habitude de lire un certain nombre d'âneries ou de choses révoltantes dans la presse. Et donc, je voulais rappeler quand même quelques... Je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, mais simplement rappeler quelques faits. Au début des années 2000, c'est là que le scandale a éclaté, le scandale de la pédophilie au sein de l'Église catholique, qui a touché simultanément plusieurs pays du monde, et notamment les États-Unis et l'Irlande. Et donc, rappelez que au printemps 2002, il y avait à cette époque déjà, et ce sont des chiffres qu'on trouvait dans la presse normale, j'ai envie de dire, et en particulier dans Le Monde, 2000 ecclésiastiques américains qui étaient impliqués dans des histoires d'agression sexuelle sur mineurs. 2000 ecclésiastiques américains au printemps 2002. À cette époque-là, donc au printemps 2002, au moment où la nouvelle a éclaté, l'Église catholique avait déjà versé $15 millions de dommages et intérêts aux familles de ces enfants. Et 8-9 ans plus tard, c'est-à-dire en 2010-2011, on en était à $3 milliards de dommages et intérêts versés par l'Église catholique américaine en matière de dommages et intérêts, toujours, soit à ses victimes, soit à leur famille. $3 milliards de dommages et intérêts en 2010-2011. Côté irlandais, en 2002 toujours, puisque c'est le moment où ces affaires ont été rendues publiques, Il y a eu 3000 personnes, 3000 Irlandaises et Irlandais qui avaient été d'anciens pensionnaires des maisons de correction, des orphelinats ou des pensionnats qui étaient régis par l'Église catholique irlandaise. 3000 de ces anciens pensionnaires donc s'étaient montrés prêts et volontaires pour venir témoigner devant les tribunaux de ce qu'ils avaient subi au sein de ces maisons de correction, de ces orphelinats et de ces pensionnats. Alors là, pareil, ces histoires-là se sont réglées par le fric, le pognon. On sait que l'Église des pauvres est riche. Et donc, à cette époque-là, en 2002, 500 millions d'euros avaient déjà été versés. 500 millions d'euros. Et 10 ans plus tard, on en était au double, c'est-à-dire 1 milliard d'euros de dommages et intérêts versés aux victimes ou à leurs familles. Et donc, j'en reviens à l'éditorial du Monde, hein, à l'extrême fermeté de Benoît XVI par rapport au problème de pédophilie au sein de l'Église catholique. Les seules sanctions en 2010 connues au sein de l'Église, c'est que le Vatican donc avait démissionné un cardinal américain et un archevêque irlandais. Alors on sait que en plus il y a eu des prêtres ici ou là en Allemagne, en France, qui ont été dans la plus grande discrétion déplacés et remis à des monastères isolés de manière à ce que les affaires s'apaisent plutôt s'étouffent plutôt, ça conviendrait mieux. Donc voilà les chiffres que je voulais donner. Et puis après, donc juste après, dans la foulée des affaires scandaleuses qui ont éclaté aux États-Unis et en Irlande, c'est l'Allemagne qui a été touchée par ce problème, oui, au point que l'Église catholique a grandement perdu de son influence là-bas, puisque on apprend que près de 200 000 catholiques pratiquants ont quitté l'Église depuis qu'a éclaté également là-bas, de manière assez forte, cette histoire de prêtres pédophiles également dans l'Église catholique allemande. Donc près de 200 000 catholiques ont quitté cette Église. Un nouveau scandale d'ailleurs, pour la petite histoire, a éclaté très récemment là, puisque l'Église catholique encore a été montrée du doigt et sévèrement critiquée après une nouvelle révélation qui nous dit que deux cliniques catholiques de Cologne, en décembre 2012, donc c'est assez récent, ont refusé d'aider une jeune femme qui craignait d'être tombée enceinte à la suite d'un viol. Et donc, qui ont rejeté cette jeune femme. Cette affaire a encore été rendue publique et a créé beaucoup d'émotions, comme on dit, beaucoup de remous en Allemagne. Donc voilà, je voulais rappeler ces trucs-là pour montrer quelle avait été la fermeté de Benoît, qui cesse ses activités. Hein,
alors c'est ça, oui.
Humblement, oui. Courageusement aussi et de façon moderne, comme le dit aussi l'éditorial du Monde, oui. Sans rire. Et voilà. Oui. Et donc, juste pour finir un tout petit peu sur ce sujet, et je te laisse la parole, Gérard, dire que en France, la France n'a pas été épargnée, parce que de toute façon, les mêmes causes produisent les mêmes effets et il n'y a pas un gène particulier chez les catholiques américains, irlandais ou allemands qui les fait devenir pédophiles. C'est partout pareil. Donc en France, il y a eu les mêmes affaires, le plus souvent étouffées d'ailleurs. Et ça n'empêche pas quand même la situation d'aller très mal, puisque là encore...
C'est la démission, c'est pour ça.
C'est terrible. Je vais vous donner quelques chiffres, puisque on nous apprend que 4,5% seulement des Français aujourd'hui se rendent à l'église chaque dimanche, alors qu'ils étaient 27% en 1952, donc une chute considérable. 65% de la population française déclare être catholique. C'était 87% en 72. Chute. Et puis alors là, ce qui est inquiétant, Gérard, je te sens inquiet, c'est qu'il y a, peu de vocation.
Oui.
On pourrait peut-être lancer un appel sur cette antenne, car nous sommes capables de solidarité et de compassion. Donc il y aurait 30% de candidats en moins pour rejoindre donc l'Église catholique. Le nombre de candidats pour transmettre le message de l'Église, comme dit le journal que j'ai devant les yeux, a chuté de 30% au cours de ces dix dernières années. Et alors, les spécialistes, les commentateurs de cette situation dramatique que connaît l'Église de France s'accordent en général, pas tous, mais une grande majorité, pour dire que la solution serait le mariage. Le mariage, parce qu'on nous a bassiné avec le mariage pour tous, mais ce n'est pas le mariage pour tous, c'est une imposture, cette appellation, puisque les prêtres n'ont toujours pas le droit de se marier.
Entre eux. C'est ça que tu voulais dire, Florian.
Oui, tu connais la petite blague de notre ami Bernard Joyer. Hein. Oui. Êtes-vous pour ou contre le mariage des prêtres? Oui, s'ils s'aiment. C'est la réponse.
Oui.
Et donc, donc voilà, je ne sais pas quel est ton point de vue sur le mariage des prêtres. Gérard, tu vas peut-être nous le dire, ce serait la solution pour que faire revivre, renaître les vocations.
Là, c'est ce qu'on a évoqué, peut-être que pour le pape, il n'était pas trop tard, hein, puisque le canard enchaîné, évidemment, là, vous savez, quand même, en ce qui concerne la religion, le canard enchaîné, donc, nous dit, je pars pour Benoît, alors Benoît XVI, alors les petites blagues, évidemment, au-delà, on disait que 16, tu sais, c'est une plaque d'immatriculation, puisque pour Paris, c'est André 23, hein, André 23, c'était un pauvre gars qui s'appelait André, l'archevêque de Paris, qui avait pas de papa, qui avait pas de maman, et là, il avait pas de filiation. En tout cas, pour lui, c'est une chose. Donc, pour préciser que le 16, comme on a dit souvent, enfin bon, c'est des blagues carambars, mais quand même, un pape très étroit, ça fait 16, vous l'avez remarqué. Et donc, ce pape très étroit dit, je pars avec mon secrétaire autrichien, le mariage pour tous, c'est aussi pour les papes. Alors, c'est ce que signifie quand même le canard enchaîné. Enfin, s'amuser, donc, là aussi, parce que pour des auditeurs qui viendraient sur Radio Libertaire, de s'étonner que l'on tienne sur cette radio sans Dieu, sans maître, de tels propos, parce qu'il faut quand même le signaler, je pense pas que sur d'autres radios, même je pense de la bande, comme on dit, FM, hein, sur d'autres radios, ils aient autant, là aussi, comme ça peut être abordé, il y a une sorte on peut dire, de considération importante, générale, hein, de soucis. Alors, évidemment, là, on est en pleine la laïcité, vous savez ce que ça veut dire, hein, tu parlais tout à l'heure par rapport à l'Allemagne, par rapport à la France, mais de voir sur toutes les chaînes publiques, après cette démission, combien de temps ça a pu durer. Des programmes chamboulés, hein, pour vous dire, vous rendez compte, alors comment vous analysez, évidemment, cette démission? Alors, évidemment, cette démission, on analyse en disant que c'est une bonne chose, dans la mesure où, pour la première fois, on nous dit qu'un pape, enfin ça s'est déjà produit, mais que rappeler quand même, c'est un chef d'État, donc inviter l'ensemble des chefs d'État à en faire autant, c'est-à-dire l'ensemble de tous les chefs d'État de la planète qui dirait dans un éclair de lucidité divine, alors là c'est peut-être ça, ou un coup de tonnerre, eh bien nous aussi on fait comme Benoît, donc on démissionne. Alors plus sérieusement aussi, c'était quand même, le pape était très très affaibli, on nous a dit ça aussi, puisque il avait une petite machine, un petit pacemaker, et tu sais que c'est une pile, donc c'était un pape à pile qui était au bout du rouleau, et donc il n'avait pas les fameuses piles, on a essayé de lui remettre pour le remettre en marche. Alors, évidemment, rigoler avec la religion qui est, comme un auditeur appelait tout à l'heure, en tout cas, on parlait du terrorisme, et on pourrait dire que le terrorisme, il existe bien, puisque la fameuse chanson « Le bon Dieu », comme Dieu est partout, Dieu est aussi dans la merde, hein, la fameuse chanson « Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pend ton propriétaire ». Et là aussi, donc, par rapport à cette névrose, comme on dit certains, là, évidemment, c'est pas une révélation sur Radio Libertaire, cette véritable névrose qui, je pense, quand même, tu parlais pour les enfants, mais tous ceux qui sont élevés, si l'on peut dire, dans ce type de religion, celle-là ou d'autres, eh bien, on peut dire, il y a un effet quand même, il y a un formatage, il y a une déficience. Comme on dit, il y a déjà au niveau cérébral un problème sérieux, hein, celui-là. Et donc, cet auditeur nous parlait en disant que certains l'ont dit, Dieu, comme rappelé, si vous êtes sur cette antenne anarchiste, Radio Libertaire, Pierre-Joseph Proudhon, qui disait Dieu, c'est le mal. On pourrait dire Dieu, c'est le terroriste numéro un, puisque quand on voit le nombre de morts, de victimes qui ont été faites en son nom, puisque les guerres de religion continuent, hein, sous d'autres formes, en tout cas on peut le voir, puisque on nous le dit actuellement, si la guerre sévit, les Français sont en guerre, en fait ils s'en aperçoivent pas tous les jours, mais la guerre militaire par rapport à la guerre du Mali, c'est quand même contre une armée, hein, contre une armée de fanatiques, on l'a dit terroristes, on l'a dit il faut les détruire, mais religieux, hein, ne l'oublions pas quand même, pour le djihad c'est une guerre de religion, hein, c'est la guerre justement, donc là cet aspect-là est évidemment complètement gommé, complètement masqué. Là, on ne voit plus, enfin pour le Benoît, certains ont dit aussi qu'il allait peut-être rejoindre, Cabu nous dit ça, les vieillesses hitlériennes. Hein, puisque c'est quand même, c'est aussi, on va le dire aux éditeurs, ils doivent le savoir, qu'il aurait à l'insu de son plein gré participé aux jeunesses hitlériennes à l'âge de 14-15 ans. Hein, certains ont dit, pour rigoler, il avait levé le bras en disant à Hitler, et puis maintenant il disait Alzheimer, hein, donc il était passé de l'un à l'autre, et donc il était temps pour tout ça, peut-être que les cardinaux, on les a vus quand même très affairés, les travestis, là aussi, hein, le travestissement, ensemble discuter beaucoup, se pousser au dire en disant, ben on l'a un peu poussé vers la sortie, parce que ce pape très réactionnaire, conservateur, comme s'il y en avait d'autres, ça fait toujours rire, comme si même j'ai vu, même de le canard enchaîné, hein, nous dit quand même de terminer son éditorial du canard enchaîné, le renouveau et la modernité risquent encore de relever de vœux pieux, comme si le canard enchaîné attendait pour un nouveau pape de la modernité, hein, tu vois, de la modernité et du renouveau, comme si ça pouvait exister. Justement, c'est quand même extraordinaire de voir l'impact, hein, que ça peut faire, même ça peut laisser un peu partout, même trouver ça dans le canard enchaîné. Alors bon, les prochains impétrants, comme on dit, eh bien il y en a des bons, encore plus réac, farouchement réac ou intégriste que lui, tu meurs. Et donc voilà un peu la suite. Alors ensuite, évidemment, c'est pas une vous le pensez bien quand on a entendu ça, mais c'est quand même remarqué l'impact et le temps d'antenne. Hein, nous, on en fait un, mais c'est par rapport à celui qui est fait dans tous les médias, dans tous les journaux, écrits, hein, et aussi racontés par rapport à cette démission. Alors évidemment, nous, ça, ce qu'on en pense, hein, par rapport à ça, débarrasser nous de toutes les religions, puisque toutes les religions, vous le dites, sont quand même des symptômes, des névroses, des maladies graves qui infectent, qui affectent l'ensemble de l'humanité. Et pour le moment, bon, on le voit, c'est une bonne nouvelle. Fleurel, tu l'as dit ce matin. En ce qui concerne justement le nombre, pour rester dans l'hexagone, la baisse de fréquentation, hein, bon, enfin, il y en a quand même un nombre relativement important. Et il suffirait d'attendre un petit peu par rapport au temps d'éternité, hein, pour être débarrassé donc de ce fléau. voilà.
Alors il y a quand même, ouais, il y a comment il s'appelle, le cardinal Barbarin,
qui est connu pour son
ouverture d'esprit, c'est le cas de le dire, et son sens des nuances, hein, puisque c'est lui qui avait déclaré que le mariage pour les homos, entre autres déclarations, il y avait un petit peu au mépris de la langue française d'ailleurs, le pourquoi pas des couples à 3 ou 4, ça c'était quand même fabuleux, et puis qui avait laissé entendre que ça ouvrait la porte à la zoophilie, et puis à je sais plus quoi.
Mais un connaisseur
et
aussi,
et voilà, alors là aussi,
pour lui, voilà.
Alors il y a quand même, tu l'as dit, hein, les médias sont emparés de l'affaire, hein, dès l'annonce de la démission de Benoît XVIe, et évidemment tout s'arrête, hein, les lasagnes c'est fini, le Mali c'est fini, il n'y a plus que le plat. Ouais. Et alors comme d'habitude, c'est la ronde des spécialistes.
Hein. Ah oui. Mais bon, alors voilà, chaque journal, comme Barbarin, chaque journal,
voilà, de l'Église. Mais à notre manière, à nous, Gérard, nous sommes aussi nous des spécialistes de cette Église catholique.
Exactement.
Et donc, alors il y a deux aspects. Moi, je voulais dire, pour terminer sur une note un peu gaie,
sans ambiguïté sur le terme,
qu'il y a deux possibilités qui n'ont absolument pas été évoqué par les fameux spécialistes, et je le regrette, c'est que il est possible que la décision du pape ait été prise après sa lecture du droit à la paresse de Paul Lafargue.
Oui, rappeler quand même cet ouvrage, indispensable.
Il y a une bibliothèque importante au Vatican, et peut-être que ce livre y figure, et on ne sait jamais. Benoît a peut-être lu le droit à la paresse. Et puis,
capital. Rappelons-le.
Et puis, alors, l'autre possibilité, c'est que, on a tous en mémoire les dernières semaines ou les derniers mois de vie de son prédécesseur, Jean-Paul II, le monde se souvient qu'il était devenu complètement sénile, complètement gâteux, et que toutes les images qu'on voyait étaient quand même assez, les images de lui étaient quand même assez pitoyables et déplorables. Et là, donc, se souvenant de cela, eh bien, l'Église et le pape, peut-être lui-même, Benoît, ont effectivement pris la décision de le faire démissionner, car ça commençait. Chaque image de Benoît XVI à la télévision, depuis quelque temps, devenait un véritable plaidoyer en faveur de l'euthanasie. Il faut quand même le dire. Et donc, l'Église a préféré retirer ses billes. Ses billes, en l'occurrence, étant notre ami Benoît.
Benoît. Floréal, eh bien, pour illustrer, justement, nous avons deux chansons, donc vous allez tout de suite maintenant, puisque on va écouter ces deux chansons sur ce thème, hein, sur le même sujet. On va pas quitter le sujet. Et puis, je vous rappelle que c'est l'émission Chronique Hebdo, que vous êtes sur Radio Libertaire, et puis que le numéro du studio, si vous voulez nous appeler, c'est le 01 43 71 89 40.
J'ai vendu des cravates et des nœuds papes au fils du pape, le papillon. J'ai des marchands de sapes, marchands de cotillons.
de farceuses et attrapes. Et d'attrape-couillon, le pape a des couilles, le pape est un couillon. Il bénit les andouilles de virer les gens. Bon, le pape a des couilles, le pape est un couillon. Il bénit les andouilles de virer les gens. Bon. J'ai vendu des stigmates aux astigmates et des hosties dans les hostos. J'étais marchand des pâtes, marchand de pommes à l'eau, de bonheur de patates et d'attrape-nigaud. Le pape a des couilles, le pape est un couillon. Il bénit les andouilles de virer les jambons. Le pape a des couilles, le pape est un couillon. Il bénit les andouilles de virer les jambons. J'ai vendu des atomes, at home sweet home, adieu le fit, sous le manteau. J'étais marchand de bière, marchand de saucissons, de trous et de gruyère. À la morte saison, le pape a des couilles, le pape est un couillon. Il bénit les andouilles de virer les jambons. Le pape a des couilles, le pape est un couillon. Il bénit les andouilles de virer les jambons. J'ai vendu tout vendu et je suis devenu le plus riche du cimetière. Et je monte en enfer pour toucher mon pognon. Le pape a des couilles, le pape est un couillon. Il bénit les andouilles de virer les jambons. Le pape a des couilles, le pape est un couillon. Il bénit les andouilles de virer les jambons. Cha cha cha.
Vous savez que c'est une grande année. C'est une année décisive. C'est la 25e année du pontificat de Sa Sainteté. Alors ça tombe bien parce qu'on a fait un voyage, Fred et moi, dernièrement en Égypte. Et Fred a découvert le véritable manuscrit signé par la main de Saint Paul sur la vie de Jésus. Il l'a traduit. Et grâce à lui, je vais vous chanter la véritable histoire du christianisme. C'était un soir de juin, l'alcool avait tourné, Jésus s'en revenait, ivre du cabaret, jurant et blasphémant, maudissant le carême, on l'entendait gueuler jusqu'à Jérusalem. Il pensait à sa panse bien plus qu'au Saint-Esprit, et il cherchait un lit pour apaiser ses sens. Il titubait ainsi, plus sous qu'à Tibériade, quand tout à coup il vit ses quatre camarades. Mesdames et messieurs, pour vous ce soir, je vais vous présenter les quatre camarades de Jésus. Le premier, Simon Pierre. Le premier Simon Pierre était un vrai ivrogne qui passait tout son temps l'innommable charogne à écuer sa vinasse sur un banc du corum, ne bougeant sa carcasse que pour mander l'aumône. Le second, un certain André. Le second, incertain, André pour les intimes, eunuque de métier, passé pour le plus digne. Il racolait les hommes pour 3 écus romains, du côté de Sodome, dans le quartier des Bains. Jacques et Jean, les deux frères, Jacques et Jean, les deux frères, deux aimables maquereaux, avaient mis au trépot leurs 3 sœurs et leur mère. Les soirs de grands banquets, ils dénichaient des dames et allaient forniquer au temple d'Abraham. Ils étaient tous les quatre assis autour d'un banc, et ils gesticulaient comme de vieux forbans. Nos hommes étaient si saouls qu'ils se croyaient en mer. Tout autour de la terre semblait faire des remous. En avant, moussaillon, s'écriait le vieux Jacques, affrontant le plein fouet, l'écume et la bourrasque. Ah, moi le gouvernail, s'écriait son frère Jean, évitons la rocaille, et filons droit devant. Il naviguait ainsi sur la terre bien ferme, quand tout à coup ils virent l'éclair d'une lanterne et Jean. Là-bas, il y a un mec qui marche sur l'eau. c'est beau. Oh, les amis, un fantôme, s'écria le vieux Pierre, par le Deutéronome. Il marche sur la mer, mais non, bande de cons, ce n'est que moi, Jésus. Vous êtes encore tous ronds, un bande de malotrus. Si c'est toi, cria Pierre, ordonne que je vienne. Eh bien. C'est profond, Jésus, là. Je vais me noyer, moi. Je marche sur la mer et défie les ressacs, s'écria le bon Pierre. Mais d'un coup, Simon Pierre eut envie de vomir et ses jambes se mirent alors à flageoler. Oh, si c'est toi, Jésus, je t'en prie, sauve-moi. Et Jésus de répondre, homme de peu de foi. C'est pas fini. De 1000 ans de croisades, de sainte inquisition, de sang de dragonnades et de persécutions, de chasse aux sémites, de chasse aux albigeois, d'autodafés de rites barbares pour la foi. 2000 ans de croisades, de colonisation, de crimes en dragonnades et de persécutions, de massacres des juifs, de massacres des morts, de silences nazis, de massacres encore, 2000 ans de mensonges, de morale hypocrite, de châtiments sans nom, tout ça pour une cuite. 2000 ans de mensonges, de morale hypocrite, de châtiments sans nom, tout ça pour...